Ok, nous sommes au troisième shiur sur le Rabbi Nissan Abba Shaoul, Zecha Tzadik Vekanshu Livracha. On va essayer de terminer, bien qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. J'essaie de me rappeler ce que je me souviens, j'ai mis ici par écrit, et voilà, je pense que c'est pour le moment. S'il y a d'autres choses, peut-être on fera un quatrième shiur avec les deux dieux. Peut-être l'année prochaine, si ma chère n'est pas venue, ce qui m'étonnerait. Ben, je n'ai rien dit parce que je me trompe toujours. Mon cher Rabbeinu veut sortir le peuple juif d'Égypte. Il lui donne une force extraordinaire de faire 10 plaies. La première plaie, changer le Nil en sang. Moshe ne va pas frapper le Nil pour le changer en sang. Il dit à Aaron de le faire, et c'est Aaron qui le fait. Pourquoi? Parce que quand il avait 3 mois, pendant quelques minutes, le Nil a supporté son panier en osier. Et alors? Alors, Hakarat HaTov. Hakarat HaTov signifie la reconnaissance du bien. Non, je ne comprends pas, restons calmes. L'eau, elle est l'eau. Dans la nature, il y a l'eau, tu mets du bois, ça flotte. Donc, il n'y a pas, le bois doit être reconnaissant à l'eau parce qu'il flotte. Ça, c'est la grandeur des grands d'Israël. Savoir être reconnaissant. À plus forte raison d'être reconnaissant à l'être humain qui me rend un service, et à plus forte, de plus forte raison de reconnaissance, être reconnaissant à Dieu qui me donne tout, qui me donne toute ma vie. Des fois, quelqu'un m'a écrit dernièrement sur le mail, il est révolté, il a perdu ses 2 jambes. Bon, là, on ne souhaite à personne une chose pareille. Et je comprends tout à fait. Mon niveau rationnel. Qui me dit que maintenant, dans le ciel, on n'a pas la sentence du mal, la rigueur? Il y a dans le ciel, il y a une sorte de débat. Il y a les forces de rigueur et les forces de miséricorde. La rigueur a dit, il faut le tuer. Et in extremis, par la miséricorde extraordinaire de Dieu, il était sauvé. Et il vit. Tu vis. T'es papa, t'es un mari, tu restes. Alors évidemment, nous quand on voit les gens normaux, oui, mais eux ils ont 2 jambes et moi pourquoi je dois rouler avec des roues? Je comprends, c'est extrêmement difficile. Mais nous devons être reconnaissants à Dieu de toute la vie qu'il nous donne. Et ça c'est une chose que les gens oublient. Pourquoi? Chazal l'ont dit, celui qui n'est pas reconnaissant au service que lui rendent les gens, à la fin il ne sera pas reconnaissant au service que Dieu, au service, au don, au chesed, à la bonté que Dieu lui fait. Et qui de nous est reconnaissant du bien qu'on nous fait? Très difficile. On est des égoïstes, des orgueilleux, tout nous est dû et on ne doit rien. Une fois, quelqu'un est venu vers le Khatam Sofer. Il était très méchant avec lui. Khatam Sofer a eu quelle réaction? Il a dit, je ne me souviens pas quelle gentillesse j'ai fait à ce type-là pour qu'il me haïsse comme ça. C'est un truc très connu. Quand tu es gentil avec quelqu'un, et c'est quelqu'un qui est moyen, donc il n'a pas des bonnes midotes sur lesquelles il sait travailler, la réaction normale de ce type-là, il commence à te haïr. Pourquoi? Parce que quelque part dedans, il se sent reconnaissant. Il sait, il a une dette envers toi. Rav de Brisk disait, quand quelqu'un te rend service, le prix, le meilleur marché que tu veux payer, c'est de l'argent. Paye l'argent, c'est le prix le moins cher qu'il y a. Parce que quand il te rend service, ce n'est pas de l'argent que tu lui donnes maintenant pour le service qu'il a rendu, tu lui dois beaucoup plus. La reconnaissance à vie. À vie. On dit en hébreu, il y a un proverbe qui dit « Yad lo chatzat yad », une main serre la main. Quelqu'un te serre la main, tu dois aussi lui serrer la main. Tu as rendu service, demain, il faut aussi lui rendre service. À vie. Et on n'aime pas être redevable. Alors on se met à haïr, à l'ikfor batova. L'ikfor, ça veut dire carrément mettre, l'ikfor, c'est mettre un ustensile sur, faire comme si ça n'existe pas. Je te dois rien. Mais vu qu'on sait très bien qu'il nous doit, on commence à le haïr. Trouver des bonnes raisons de le haïr et dire, mon cher Rabbeinu, ne va pas frapper l'eau par reconnaissance. Ham ben Tzion, zichrono livracha, comme tous les grands d'Israël, excellait dans la reconnaissance du bien. Vous savez combien le temps des grands d'Israël, il est précieux. Une seconde chez eux, c'est... Chaque seconde de Torah, c'est de la vie. C'est de la vie pour eux. C'est le prix, ça vaut des millions. Un soir, il est parti à un mariage. Il allait à des mariages, on l'invitait, tout ça. Il allait, combien il restait? 5 minutes, 10 minutes, il venait dire bonjour, il faisait les kidouchines, repartait. Bon. Il va à un mariage d'une famille illustrement inconnue, une famille simple, personne ne connaît. Il est resté de 8h jusqu'à 11h du soir. Personne ne comprend. C'est des gens tout à fait inconnus. On va demander qu'est-ce qui se passe? Il dit, quand je me suis marié, la mère du Khatan nous a accompagnés, ma femme et moi, quand on sortait de la synagogue, jusqu'à la maison, nous accompagnait en faisant des yélélés comme ça dans la rue. Et 200-300 mètres. Je suis reconnaissant. Faisons au mariage de ses enfants, de 8h du soir jusqu'à 11h du soir. C'est combien de temps? 50 ans après. Reconnaissance du bien. Et ça, pour chaque petit détail. Il faisait attention à chaque petit détail. Madame le Havero, dans la relation entre l'homme et son prochain, ça c'est l'essentiel de tout. Au chiour, il disait très souvent, il avait un chiour le samedi après-midi, Shabbat après-midi, Oel Rachel. C'est une synagogue. C'était bondé. Il disait, je demande à ceux qui sont, après une demi-heure de cours, il disait, je demande à ceux qui sont assis de se lever, de laisser la place à ceux qui sont debout pour qu'ils s'assiedent. Qui pense à ça quand tu fais ton chiour? Tu fais ton chiour, les gens sont là, ok, débrouillez-vous. Parce qu'il souffre de voir les gens debout. Balaam Havero. Son fils m'a raconté des fois que son père faisait des calculs. Il voyait une femme entrer, une femme enceinte. Il fait des calculs énormes. Maintenant, comment on fait pour trouver une place? Si je dis à lui, ça va être pas de cavote pour lui. Des calculs de Gemara, de Tosfot. Comment jouer avec le cavote de chacun pour exactement arriver que tout le monde soit à la bonne place comme il faut bien. Une inquiétude du bien de l'autre. Quand on est un homme tzaddik comme ça qui fait attention à l'autre, alors Dieu t'aime. Celui qui aime son prochain comme soi-même, alors c'est là-bas sous la Torah. Alors on obtient des degrés extraordinaires. Où la première fois que j'ai vu de ma vie, enfin j'ai su que Rabbi Nissan avait Ruach HaKodesh, c'est une histoire qui date il y a 21 ans. Premier séminaire que j'ai fait avec mes amis, on est parti en France. On a été trois rabbanim. À l'époque, on n'est pas des rabbanim. Il y avait Eliyahu Ben Amu, Rav Eliyahu Ben Amu aujourd'hui, Rav Eliyahu Peretz, et moi-même. Et on est parti faire un séminaire en France, et avant, on prend une bracha. On part, on ne sait pas, la France, tout ça, ok. On rentre chez le Rav était assis, et on était les trois l'un derrière l'autre. Premier, Eliyahu Ben Amu, il passe, le Rav Eliyahu Ben Amu dessus, et il fait une bracha. Bracha batzlacha. Eliyahu Peretz, il vient, il lui met la main, plus long. Il part 10-15 secondes. Moi, j'entends rien du tout. Il passe. Moi, je passe. Bracha batzlacha, 2 secondes. Ok, shalom, on part. On descend dans l'ascenseur. Eliyahu Peretz nous dit, maintenant je sais qu'Aram Ben Sion, il a Ruach HaKodesh. Donc quoi, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, 2 personnes au monde sont courant que ma femme est enceinte. Ma femme et moi-même. Maintenant, Aram Ben Sion m'a fait une bénédiction, que ma femme finisse la grossesse comme il faut, qu'elle ait un accouchement facile. D'où il sait? Et après toutes les histoires dont j'ai déjà raconté beaucoup, beaucoup à HaKodesh, ça me rappelle une autre histoire extraordinaire. Un type vient le voir, Kodarav, j'ai une question. Ouais, il y a une maison dans le quartier Intel, il y a une option de l'acheter, je viens prendre Rav, prends le conseil de Rav, est-ce que ça vaut la peine que je l'achète ou pas? Il dit, menteur, tu l'as déjà acheté, pourquoi tu parles? Sur place. Après qu'il a acheté, il vient demander des conseils. Ouais. Menteur. Une fois, vers la fin de sa vie, le Rav, donc, il est très très malade, et il parlait peu, et des fois il parlait de façon pas très claire, et les gens croyaient qu'il déraillait, mais il ne déraillait pas du tout. Une fois, un de ses neveux vient le voir, il vient prendre justement une bracha, il dit qu'il veut changer de maison, déménager, et il hésite, qu'il est quoi comme... Il vient prendre une bracha. Alors le Rav lui dit, « Iratson shetinatzel minamezikim. » Que Dieu fasse que tu sois sauvé des mézikim. Mézikim, ce sont les endommageurs, littéralement. Mais c'est un peu toutes les bêtes dangereuses, comme ça, les scorpions, les serpents, les araignées. Ou mézikim, ça peut être aussi les démons, les choses spirituelles. Les choses qui font du mal. Alors, je veux dire, oui, merci pour d'armes. J'avais une question, voilà. J'ai une option maintenant d'acheter une maison. Alors, c'est comme, est-ce que je leur me dis que oui, ça vaut la peine ou pas? Hier soir, je suis allé à la maison. De nouveau, même phrase. Que Dieu te sauve des endommageurs. Bon, lui voit que le rave déraille complètement. Et alors, il y a encore une troisième fois. Kvod Rav, Kemrani, Bait, Kacha. Je suis là, les Knot, est-ce que je peux l'acheter? Là, comme c'est, voilà. Qu'est-ce que le Rav dit? Yerason, je suis Nassel Mulamazekim. Même phrase. Bon. Il rentre chez lui. Le soir même, sa femme et lui vont à un mariage. Et ils avaient un petit bébé, ils l'ont laissé à la maison avec une babysitter. La babysitter pouvait rester jusqu'à 11h. Et eux sont rentrés qu'à 11h30. Alors par téléphone, ils ont dit, ok, quitte la maison, c'est bon, nous on vient dans un moment, c'est bon. Ils rentrent à la maison, tout se passe comme il faut. La mère va voir comment va le bébé. Tout à coup, on entend un cri d'horreur. Ah ! Elle sort, il y a un serpent qui est en train de monter sur le berceau du bébé. Son mari vient, prend un balai, et commence la chasse au serpent. Et le serpent fuit, il va, tac, 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 à la fin, il boxe dans un endroit, et il a réussi à le tuer. Le demain matin, il vient voir Chacham Ben Sion. Avant qu'il ouvre la bouche, Chacham Ben Sion, tu l'as eu le mazik? Tu l'as eu? Qui déraillait pas trop. Encore une histoire qui date d'il y a beaucoup de temps, c'était... J'avais un de mes professeurs à la yeshiva, qui aujourd'hui habite en France, et sa femme a une maladie extrêmement rare. Elle enflait. Elle enflait, elle allait mourir, et les médecins ne trouvaient pas de médicaments. Alors, le Rav Ben Sion, lui a dit un mot qui ne veut rien dire. Je ne me souviens pas exactement du mot, mais chose comme tropine. Mais Kvod Rav, il dit tropine. Tropine. Deux, trois fois comme ça, le Rav lui répète le mot. Bon, il ne comprend rien du tout. Il ne sait pas quoi faire. Il m'annonce qu'ils partent en France. Là-bas, ils ont une option, un hôpital, tout ça. Ils sont français d'origine, donc aussi les assurances, c'est beaucoup plus clair, hein, beaucoup plus simple. Donc, ils vont en France. Et là-bas, on leur dit, écoute, c'est une maladie qui est très rare. Il n'y a pas de médicament. Il y a un truc qu'on peut essayer. C'est un truc qui n'est pas encore sorti sur le marché. Il n'y a pas encore l'autorisation du ministère de la Santé. Mais il y a des chances que ça marche. Comment s'appelle le médicament? Tropine. Là, on a compris comment le rave. Il aurait pu dire, allez en France, là-bas, il y a un médicament. Je ne sais pas pourquoi. Il a dit que ça. Mais la chamane, peut-être, on dit... Je ne sais pas comment ça se fait. Quand je vais voir quoi déchirer un jour, je vous dirai comment ça se passe. En tout cas, on voit qu'il voyait des choses extraordinaires. J'ai une fois une question, un truc très intéressant. C'est un débat entre deux grands de la Torah, deux qui ont Ruach HaKodesh. J'ai un élève qui a fait tshuva. Avant de faire tshuva, il fréquentait une fille qui était âgée de plus que lui de 10 ans. Elle avait 10 ans de plus que lui. Et elle a fait tshuva, elle aussi a fait tshuva. Après quelques mois, il me dit, écoute, voilà, Kvod Rav, moi je pense, j'aimerais bien me marier avec elle. Elle est d'accord aussi. Est-ce que ça fait de se marier avec une fille qui a 10 ans de plus? Le contraire, ça se fait. Il y a eu des grands rabbins qui étaient âgés de plus de 10 ans que leur femme. Mais à l'envers, c'est rare. Bon, écoute, je ne sais pas. Je vais voir le Rav. Le Rav a dit, pas de problème. Bon, je vais dire, pas de problème. Ok, alors il fait sur ça et tout ça. Et il se rapproche du mariage, puis ça n'allait pas dans le couple. Alors, je vais voir de nouveau le Rav. Et là, le Rav, il n'était plus dans son état. Il n'était pas bien. Je n'ai pas pu lui parler. Je ne sais pas quoi faire. Je vais aller voir Reb Chaim Kanievski. Lui aussi est connu pour avoir Ruach HaKodesh. Je rentre le voir spécialement en pleine journée comme ça, de Jérusalem je viens. Non, il ne reçoit pas, mais il y avait sa femme, et elle intercède auprès du Rav, je viens de Jérusalem, etc. Ok, il sort. Je lui dis, voilà, j'ai un élève, il connaît une fille, il s'est fiancé avec une fille qui a 10 ans de plus, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est trop. 10 ans, on ne peut pas. On peut pas. Bon, le crétin dans l'histoire, c'est qui? C'est moi. Faut pas poser des questions à deux rabbins. D'accord? Maintenant, t'es bien. Et un qui a dit oui, un qui a dit non. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on laisse faire. Tout allait bien. Une semaine avant le mariage, patatras. Tout s'arrête. Ils sont pas mariés. Je dis bon, Reb Chaim a eu raison. Ils sont pas mariés. Nachamaim, on a empêché ça. Un an plus tard, ils sont refiancés et se sont mariés. Ramel sur nos salons. Les deux ont eu raison. Mina Shamaim, les deux ont eu raison. Il faut savoir que un rave, quand il. Même s'il a Ruach HaKodesh, il faut. fonctionne toujours d'après la halakha. Parce qu'on croit que, on pourrait croire que, bon, il voit tout, alors il va comme il voit. Il faut comprendre que le monde est géré par la Torah. Il ne peut pas y avoir une chose qui ne fonctionne pas comme la Torah. Dat Torah, on en a parlé dernièrement, dat Torah. La connaissance de la Torah, ça fait en fait avoir la connaissance de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? On ne peut pas aller contrairement à la Torah. C'est pour cela que, toujours, je voyais quand même quand ils disaient des choses qui étaient avec un mahalar, avec un processus de Ruach HaKodesh, c'était dans le sens de la Torah. On ne pouvait jamais faire un truc qui n'est pas dans les lois. Il raconte le Rav une histoire extraordinaire, qu'un jour est arrivé, il était Moël, le Rav était Moël, il faisait circonciseur donc. Et un jour il arrive à une Brit Mila, et il voit que l'enfant, il a les yeux un peu rouges. Alors il demande qu'est-ce que c'est. Alors le père de l'enfant dit, il n'y a aucun problème, un de mes élèves, le père était un Rav, un de mes élèves c'est un ophtalmologue, il a dit qu'il n'y a aucun problème, c'est une petite irritation, on peut absolument faire la Brit Mila sans problème. Le médecin dit non, je ne fais pas la Brit Mila. Pourquoi? Le médecin dit qu'il n'y a aucun problème. Shulchan Aruch dit, c'est dans le Siman Resh Samech Bet 262, que même si l'enfant il a un petit mal aux yeux, on ne fait pas la Brit Mila. Là, la Halakha dit que les yeux c'est relié au cœur et c'est dangereux, etc. Il n'a pas fait, bien que le médecin dit qu'il n'y a aucun problème. Après coup, on a dévoilé que tout le sang du gosse était infecté. Et s'il a fait la Brit Mila, le gosse il y passait. Imaginez le sentiment de culpabilité qu'il aurait eu toute sa vie d'avoir tué quelqu'un. Mina Shamaim, donc il a suivi la Torah, bien qu'au niveau médical, il n'y a aucun problème à faire la Brit Mila, mais Mina Shamaim, tu suis le Shulchan Aruch, alors du ciel on t'aide. Et il était sauvé de ne pas avoir tué quelqu'un par homicide involontaire, ou j'aurais dit même à demi-volontaire, parce qu'il était contre la Torah. Il a suivi la Torah, au doigt et à l'œil, et au Hashem, comme ça il a été sauvé. En 1983, le Rav a eu une hémiplégie terrible. Et dès lors, d'un côté, il a été extrêmement diminué physiquement. Moitié paralysé, il parlait difficilement. Mais d'un autre côté, il a commencé à grandir au niveau spirituel à des degrés extraordinaires. Quand il s'est levé du lit, sorti de l'hôpital... Alors il a dit, sachez que j'ai vu comment les anges tiraient mon lit vers le haut pour que je parte de ce monde. Et les prières des dizaines de milliers de gens qui ont prié pour moi tiraient le lit vers le bas. Et à la fin, ce sont les prières qui ont vaincu les anges. Et quand il est rentré à la maison, c'est le premier Shabbat, beaucoup de gens sont venus pour le bénir, qu'il est sorti de l'hôpital, et son shamash, celui qui s'occupait de lui, ne voulait pas recevoir, parce que le rab était très très faible, il a dit « laisse-les rentrer, c'est grâce à eux que je suis vivant, toutes les prières qu'ils ont faites pour moi ». La force de la prière, c'est extraordinaire, je me souviens d'ailleurs d'une histoire, une fois il était à la yeshiva, pour Yosef, étudiant, il étudie la Gemara. Du coup, il ferme la Gemara et il dit « Ah, pourquoi quand les gens... partent faire une promenade, ils ne nous avertissent pas pour prendre l'autorisation. Sortez vite Tehilim. Qu'est-ce qui s'avérait? Deux élèves de la yeshiva sont partis faire un tioul, une promenade, aller dans la mer morte, ou comme ça. Et lui, il a vu qu'ils étaient en danger. Tout yeshiva a fait Tehilim, et effectivement, il s'avérait qu'ils ont frôlé un accident terrible, et ils ont été sauvés de justesse. Alors, au milieu du shur de Gemara, il voit ça, comme ça, et Tehilim. Quand il est sorti de sa chute, de son hémiplégie, il a dit qu'il peut faire la bracha deux fois de Mahaye Ametim, celui qui ressuscite les morts. D'abord parce qu'il est vivant, et normalement il aurait dû mourir. Mais deuxièmement qu'en plus, il a sa Torah. Et s'il avait survécu sans sa Torah, alors pour lui, que vaut une vie sans Torah, comme s'il était mort. Alors deux fois il est vivant. Vivant qu'il est vivant avec sa Torah. Je me souviens que mon Chavruta partait à l'hôpital le voir. Il était encore, il ne pouvait même pas parler. Mais il a fait signe d'ouvrir le Rambam, Maïmonide. Maïmonide, c'est la synthèse de toute la Torah. C'est quelqu'un qui connaît toute la Torah, depuis la Torah Shibirta, avec la Gemara, etc. Quand tu prends Maïmonide, ça te fait passer toute la Torah. Mais, alors le Rav, comme ça, il lisait une halakha, c'est bien un alinéa. C'est comme ça, il réfléchissait. Regarde dans la tête maintenant, quelle Gemara, quelle page, comment ça, Marloket, Rachitoso, David du Rambam, tac, 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 tac. C'est bon, prochain, tac. Pour bien voir que. Il n'a pas oublié encore sa Torah. Et le premier signe qu'il a fait à son fils, quand son fils est rentré à le voir à l'hôpital, Il a fait ça va, il a fait comme ça. Je peux encore faire la Brit Mila. Enfin, c'était faux parce que déjà il a été trop paralysé de sa main droite, il ne pouvait déjà plus. Mais montrer que tout va bien, Baruch Hashem, les mitzvot. Le Rav adorait les mitzvot, toutes les mitzvot, mais aussi les mitzvot qui étaient rares. Il y a des mitzvot rares. Et on appelle ça met mitzvah. C'est comme il y a une mitzvah d'enterrer quelqu'un que personne se s'occupe de quelqu'un. Il y a une mitzvah spéciale d'aller de l'enterrer. Ça repousse tout. Ça repousse toutes les mitzvot. Si on voit un mort qu'il n'y a personne pour l'enterrer, d'aller l'enterrer. Ça repousse absolument toutes les mitzvot. Même un Kohen qui est impur, c'est vrai, il peut s'impurifier pour aller enterrer un met mitzvah. Alors, il y a des mitzvot qu'on appelle met mitzvah, que personne s'occupe de ces mitzvot-là. Par exemple, Reshit Hagez, si tu as 5 moutons, quand tu tonces la tonte des moutons, il faut prendre une partie donnée au Kohen. Mitzvah de la Torah. Alors il a été spécialement acheté 5 moutons, et à la période des tontes, etc., faire la tonte, et apporter, donner ça, Pidyon Peter Hamor. Si quelqu'un, il a un âne, une ânesse, qui tombe enceinte pour la première fois, elle met au monde un âne mâle, cet âne appartient au Kohen. Et on doit le racheter du Kohen en lui donnant une brebis. C'est une mitzvah très rare, mais très belle. Mais il va acheter un âne, va acheter encore qui tombe enceinte, la première fois qu'on est certain qu'il y a, il faut être certain que c'est la première fois, etc. Shiloh Haken, mitzvah relativement facile à faire, mais il faut la trouver. Il faut un nid qui appartient à personne. Dans un domaine qui est Hefker. Hein? Le nid? Non, tu as... Le nid, tu trouves un nid.
Ah, mais l'âne et tout.
L'âne, il t'appartient. D'accord? Maintenant, l'âne, il est Baruch Hashem, l'ânesse, elle a mis au monde un âne. Cet âne, il appartient au Kohen. Comme un fils aîné. T'es fils aîné, toi? Donc, t'as fait Pidyon HaBen? Bonne question. Tu vas te renseigner. Il y a le mitzvah. Comme pour un garçon aîné, le rachat du premier-né. Alors, comme tu as un rachat du premier-né chez le Kohen, qu'on achète au Kohen le premier-né, on rachète aussi l'âne au Kohen. Mais pas avec de l'argent, avec une brebis. Donc on trouve un Kohen, on fait une grande fête. T'as un Kohen là, qui est Kohen? Voilà. Oui. Non. Lui te le rend. L'âne lui appartient. Lui te le rend, mais tu lui donnes une brebis. Un mouton. C'est avec le mouton, il fera un méchoui. Bah, qu'est-ce que tu feras avec ton âne? C'est ça la question. Tu vendras un arabe. Voilà. Bien sûr. On a fait souvent ici les Pidyon HaBen. On a fait, il y a des gens qui n'ont pas fait. Le gars du village, chaque fois qu'il voyait un Kohen, il refaisait Pidyon HaBen sur lui-même. Peut-être que je tomberais sur un vrai Kohen. On n'est jamais certain, mais là, voilà. Donc, voilà, au moins une fois, le faire bien. Tu appelleras ton papa, tu lui demandes si tu as fait le rachat du pomenu. Sinon, il faut le faire. Un jour, il est arrivé à la yeshiva avec un paquet de bonbons. Il commence à jouer des bonbons à tout le monde. Pourquoi? Il dit, je suis très heureux, je fais une grande mitzvah. Quelle grande mitzvah? Hachev Teshivem. Il a trouvé un porte-monnaie. Il a fait la mitzvah que tout le monde connaît, qu'il faut rendre une perte, une chose qui est perdue, la rendre à son propriétaire. Il a réussi à retrouver le propriétaire, à lui rendre. C'est très heureux. Nous, on aurait dit, ok, bah, Hachev, je fais la mitzvah, une corvée, d'accord, je dois appeler, machin, tout ça. Heureux de faire la mitzvah. Deoraita. Quoi, nous, Khumra? Obligatoire.
Tout.
Hein? Ça dépend qui, quoi, comment? S'il y a un siman. S'il y a un signe, tu es obligé d'aller. Le Rachmol Euerbach, une fois, il a trouvé aussi une chose qui était perdue comme ça, est allé toute la rue où il habite, là-bas, il a mis des étiquettes comme ça, avec un scotch, a été trouvé une somme d'argent, sera restituée d'après les simanim, d'après des signes. Les gens ont dit, non, on va faire votre place. Rassé Shalom, mais c'est assez d'oraita, je fais maintenant. Je vais faire moi-même. Et il est allé lui-même, comme ça, scotché, comme ça, sur tous les lampadaires de la rue. C'est assez d'oraita. Ok. Aussi une fois, il est rentré là chez aussi très heureux. Il a dit, Baruch Hashem, je fais une grande mitzvah. J'étais au Beddin, j'étais Dayan, donc juge au tribunal rabbinique. Et il y avait les deux jugés. Un homme normal, c'était un des grands rabbinim du pays. Et Baruch Hashem, j'ai fait comme si c'était quelqu'un tout à fait quelconque, j'ai jugé de façon impartiale. C'est comme ça marqué dans la Torah, l'autre tagourou mipnei, je n'aurai peur de personne. T'as devant toi le Gdolador. D'accord, c'est marqué que même, il rentre par exemple, il faut se lever devant un gars. Non, tu peux pas te lever, parce que si tu te lèves devant lui, le type en face, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, c'est cuit d'avance déjà. Le juge se lève devant ma partie adverse. Donc il faut les prendre les deux au même niveau exactement. Ou tu te lèves pour les deux, ou tu t'assieds pour les deux. Et c'est très dur, parce que sauf c'est un grand de la Torah, il faut faire du kavod. Rien. Il était très heureux qu'il ait réussi à se maîtriser, à être le plus impartial qu'il puisse être. Une fois, un élève est venu le voir, un élève qui était à l'Eshiva et qui s'est dit, Kodara, voilà, moi je pense à ma parnassa, et je pense aller faire des études maintenant à la fac. Qu'est-ce que le Rav me conseille? Je me prends une bracha et un conseil du Rav. Il lui a dit, écoute, moi à mon âge, je peux aussi aller à la fac et étudier. Ils m'en recevront. Et je pense que, avec ma tête, je pense que je peux même réussir à faire un bon doctorat. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que moi j'ai compris que dans ce monde il y a une seule chose qui est vraie, qui vaut la peine d'être vécue plus que tout, la Torah. Je respire Torah, je vis Torah, je mange Torah. Alors comment dis-tu que je m'attends un conseil autre que ce que j'aurais donné à moi-même? Je peux donner qu'un conseil que j'aurais donné à moi-même. Moi aujourd'hui, si je me pose la question, qu'est-ce qui est préféré pour moi, la fac ou la Torah? J'aurais dit la Torah. Je peux te dire que le conseil que je me suis donné à moi-même. Et le gosse a entendu ça, et Baruch HaShem aujourd'hui, c'est un grand rave en Israël.
C'est pas une personne qui serait susceptible par son caractère, son profil, et que pour lui, ce soit mieux qu'il fasse des études.
Peut-être. En tout cas, le rave a dit ce qu'il avait dans le cœur. Il pensait que ce que je dis, c'est pas pour tout le monde, c'est pas qu'on va fermer la fac pour tout le monde, d'accord? Mais en tout cas, le rave a dit ce qu'il pensait, ce que nous pensons aussi. En général, c'est comme ça. Il y a des cas aussi, chaque cas, chaque cas est à prendre séparément. Mais le Rav dit, tu me donnes un conseil que moi j'aurais donné à moi-même, tel que je vis les choses pour moi-même. C'est un conseil vrai. Une fois, ils sont allés visiter, lui et son fils, Rav Ben Sion et son fils sont allés visiter Baba Salé. C'était 2 mois avant le décès de Baba Salé. Et le fils pour l'occasion, Rabbi Eliaou, a pris un appareil photo. Rav Ben Sion lui a dit, Baba Salé n'aime pas qu'on prenne des photos, ça ne sert à rien, prends pas, ça ne sert à rien. Bon, le fils quand même a pris l'appareil photo, et lorsqu'il y a eu un moment où le Baba Salé et le Rabbi étaient les deux ensemble, il ne s'est pas retenu, il a dit, bon, je peux pas, c'est une photo unique, il prend la photo. Il a pris comme ça 2 photos. En tout, il a pris 4 photos. 2 photos, le Rabbi Ben-Sion avec Baba Salé, et encore 2 photos, le Baba Salé avec lui-même, une fois avec son fils, le petit-fils du Rabbi Ben-Sion. Et les photos allaient comme ça, première, Rabbi Ben-Sion avec Baba Salé, deuxième, le fils du Rabbi Ben-Sion. Troisième, comme la première, Rav Ben Sion et Baba Salé. La quatrième, le petit-fils du Rav Ben Sion avec Baba Salé. Donc, dans la première, troisième, c'est le Rav Ben Sion et Baba Salé. On développe les films. Première photo, brûlée. Deuxième, bonne. Troisième, brûlée. Quatrième, bonne. Il n'y a aucune photo de Rav Ben Sion et Baba Salé, deux ensemble. S'ils ont encore les 2 premières qui ont brûlé aujourd'hui, encore, mais qu'une brûle, après une autre bien, encore une troisième brûle, ça, tu vois, carrément les mains de, je ne sais pas qui, de Baba Salé, Ham Ben Sion, Eliwanavi, Mashiach et Dieu, dans l'appareil photo. En passant, ça n'a rien à voir, c'est sur Baba Salé, mais c'est connu l'histoire que Baba Salé, des fois, il ne voulait pas qu'on prenne les photos. Alors, il y a quelqu'un qui filmait, il a repris Baba Salé, tac, la machine s'arrêtait, elle ne fonctionnait pas. Alors, il reprenait de nouveau, tac, elle s'arrêtait. Alors, il reprenait dans l'autre sens, tac, ça n'arrivait pas. De nouveau, là, ça va très bien. Là, ça ne marche pas. Il y a des grands. Le Rav Eliashiv, très souvent, était assis au Bet Din avec le Rav Ben Sion, dans le même tribunal rabbinique, et un jour, il a dit à un grand Rav Sarad, il sache qu'être assis au Bet Din avec le Rav Ben Sion, on peut apprendre en quelques minutes plus qu'on apprend en quelques semaines d'études de Torah. Quelques minutes qu'on est assis avec lui, tellement c'est un grand Torah qui sait aussi appliquer la Torah à la Halema Asé, dans le Bet Din. Moi, ouais, je crois que c'est tout. Des questions?
C'est quoi le secret, là?
Le secret, j'en ai parlé la dernière fois. Alors, je vais poser la question. Voilà. C'est quoi le secret? Comment on fait pour avoir Roi HaKodesh? Alors, le Rav m'a dit, je ne sais pas, j'ai enseigné les élèves et c'est venu. Alors, je fais la même chose et moi, je ne reviens pas. D'abord, lui s'est donné à fond. C'était un grand Torah. Et puis, la Torah, il connaissait la Torah. Ensuite, il y avait un amour d'Israël extraordinaire. Ensuite, il n'y avait aucun péché. Il fait attention de ne pas avoir de péché. Une fois, le Rav Ben Sion a étudié en Kabbalah, il y a un livre entier du Rav Nino. C'est toutes les kavanotes, toutes les intentions kabbalistiques du Malkout. Malkout, quand quelqu'un a transgressé un péché, qui n'est pas sanctionné par les péchés graves, comme pas sanctionné par les sanctions graves, comme le karet ou le mitat bedin, la mort du bedin, Alors, il doit recevoir les 39 coups. À l'époque du temps, il recevait 39 coups de la bastonnade. Et il y a des cabanotes, comme ça, savoir. Et j'ai étudié avec quelqu'un pendant quelques mois, ils ont étudié ce livre-là. À la fin, le rabbin dit, sache que de ma vie, je n'ai pas eu un chiyuv malkout. Je n'ai pas transgressé un lave d'orata à propos duquel je dois recevoir malkout. La bastonnade. L'autre, on peut croire peut-être maintenant. C'est, on peut voir la bastonnade, mais au moins le fait d'étudier, c'est comme si. D'accord, fait quand tu étudies quelque chose, ça ne va pas. De ma vie, je n'ai pas eu ça. J'ai pas dit qu'il n'a pas fait de péché. Mais faire un péché, un lave d'oraita ou tourner le malkout, d'abord, c'est un lave qui vient à maasé. Quand il regarde une fille, par exemple, il n'y a pas de maasé là-dedans. S'il a menti, c'est pas un maasé. Une fois, il a dit, le Rav Elia ou son fils m'a dit, mon père m'a dit, une fois que ça fait 38 ans qu'il n'a pas sorti un mensonge de sa bouche. Quelqu'un, il a une bouche pareille, aussi sainte. Alors, prie à Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Emet! Essayez de tenir 38 heures sans dire un mensonge.
Mais il était mécoupable ?
Bien sûr, très grand, j'en ai parlé l'autre jour. Très grand Kabbalah. Mais il a dit, j'ai pas ouvert un livre de Kabbalah avant que j'ai fini tout le Talmud Bavli et Yerushalmi Be'iyun. Be'iyun.
Est-ce que vous l'avez entendu parler de Mashiach profondément ?
Beaucoup, beaucoup. J'ai parlé énormément avec lui de Mashiach. Même un temps.
Vous avez posé la question, non ?
Hein ? Mais mille fois. Quelle question ? À propos de quoi ? Quand une des premières fois que je suis parti le voir, Rav Ben Sion, je suis parti en France. C'est aussi un des. C'est pas encore un séminaire, c'était faire un tour de conférence. Alors je lui dis, j'ai peur que quand je serai là-bas, ma chère revient. Et moi je suis idiot à Paris quand ma chère revient ici. Qu'est-ce que je fais là-bas, dans ce pays de taré ? Alors il a mal compris la question. Et j'ai vu qu'il n'était pas content de la question. C'est comme si je viens, j'en profite. Alors il dit, tu répondras un jour plus tôt qu'hier. Alors, d'après la réponse, j'ai compris ce qu'il a cru que j'ai dit. Il a cru que je demandais, je lui posais la question, quand ma chère viendra ? Alors il m'a dit la réponse à ta question, quand ? Un jour plus tôt qu'hier. Je lui ai dit, non, Kvod Arav, non, moi j'ai dit, ma question est différente. Quand je serai là-bas, si ma chère vient, j'ai peur que ma chère vienne là, et moi je suis à Paris. J'ai l'air idiot, ma chère vient et je suis à Paris. Il t'en fait pas, tu vas pour une mitzvah, c'est comme si tu en Eretz Israël. Le Rav est très très marmire, il était, comme je suis devenu aujourd'hui moi-même, très marmire sur le fait, comme le Rambam. Il y a une machloket entre le Rambam et le Tosfot à propos de quitter la terre d'Israël. Et nous, il sera dit, on doit aller comme le Rambam. Le Rambam autorise de quitter la terre d'Israël pour trois raisons. Ou se marier, ou pour étudier la Torah, ou pour sauver des goïms. Et si la parnassa est impossible ici, alors on peut aussi quitter le pays. Mais revenir après.
Sauver des goïms.
Sauver les juifs des goïms. Sauver les juifs des goïms. Qui vous aime, non. Tosot dit que oui. Tosot dit, même pour aller visiter un ami, tu peux. Lorsque mon meilleur copain s'est marié, Philippe, il s'appelle, à Genève, copain d'enfance, on s'est connu depuis l'âge de 12 ans, voilà, c'était évident que j'allais à son mariage, j'ai même pas de question là-dessus. Il est venu à mon mariage, il est venu dessus spécialement au mariage, c'est la moindre des choses que j'y aille. Ma femme aussi, elle voulait venir. Je lui dis, mais non, elle ne va pas venir, et les enfants, tout ça. Elle me dit oui, moi je dis non. Mais bon, on va le rave. Pourquoi ta femme, elle veut venir ? Parce que toi, tu y vas. Et toi, tu as le droit d'y aller. Tu n'y vas pas. Tu vas pas, donc ta femme non plus n'y va pas. Mais Kodara, comment j'y vais pas ? Mon meilleur copain, Akaratatov, la reconnaissance du bien, il lui venait mon mariage dessus, s'il n'y vais pas, je peux pas. Interdit, il m'a dit, on ne quitte pas Israël pour ça. Et depuis Baruch Hashem, j'ai jamais quitté Israël pour un mariage ou quoi que ce soit. Que pour les séminaires ou pour les choses qui sont autorisées. Hein ? Oui, mais pas, mais rester en Israël plus que cela.
Il est resté ami avec vous ?
Ouais, très bien, je dis, il est monté en Israël, maintenant c'est bon.
Par contre, vous me dites, si on doit aller déjà pour le travail ou pour autre chose, on peut aller voir la famille aussi.
Voilà, si tu es parti pour une mitzvah qui est légitime, tu peux...
Faut pas aller en vacances ?
Elle ne pose pas des questions, tu veux ? Réponse, non. J'ai parlé dernièrement à un rabbin, un grand rabbin, un rabbe qui était un Ben Bayit, qui était un très proche de Rav Ben Sion. Il m'a dit, c'est Xerash en Tzibur Yochal Amod Ba. Aujourd'hui en Israël, c'est un décret que le Tzibur, le public, n'arrive pas. Tu vois, ils ont une boulimie d'aller en Chutz La'aretz. Voir Paris, d'accord. Bien sûr que c'est interdit. Elat, c'est Chutz La'aretz. Elat, c'est pas Israël. C'est peut-être l'État d'Israël, mais ça n'a rien à voir. Ça s'appelle, on doit faire là-bas Yom Tov deux jours, bien sûr.
C'est-à-dire quand Moshiach viendra, et là, ce sera plus
Israël. C'est Raos. À moins que Moshiach viendra et sanctifiera. Non.
La frontière d'Israël au sud.
Environ 50 km plus bas de Beersheba. Ok, messieurs, que son mérite nous protège, que par cet exemple-là, qu'on en prenne un peu pour nous-mêmes, et que ce soit un grand Ilou Nishama pour sa Neshama Teora qui, dans le ciel, prie pour qu'Am Israël vienne bientôt. Amen, Kenneret Sohn. Que Mashiach vienne bientôt. Amen, Kenneret Sohn.